L'humanité, comment l'humanité se retourne contre elle, avec des moyens d'inhumanité absolument saisissants. C'est très important que les artistes se mobilisent aussi pour la compréhension des génocides, et on aura aussi, nous l'espérons bientôt, la preuve de cela à travers un monument que le président de la République et la maire de Paris ont décidé d'inaugurer sur les quais de Seine, hein, en face du monument pour le génocide des Arméniens, donc les droites, là ça sera une gauche, et puis non loin aussi, eh bien, des hauts lieux du pouvoir qui ont placé la France entre 1990 et 1994 dans une situation extrêmement impliquante dans le génocide des victimes, on va y revenir. Voilà pour l'introduction. J'ai promis à Frédéric de tenir mon temps, 25 minutes. L'exposé que je présente s'intitule « Responsabilité française et internationale dans le génocide des Tutsis, 1959-2024 ». Parce qu'un génocide, c'est du temps long, hein, et vraiment, il faut y insister. On y insiste aussi sur le génocide des Arméniens et sur les récents événements qui a amené, l'épuration ethnique au Karabakh. Alors, 1959, il est certain que les responsabilités françaises ne sont pas très fortes à ce moment-là, même si on verra effectivement que ça s'inscrit dans un panorama intellectuel, idéologique, mais c'est vrai que ce sont effectivement plutôt des responsabilités belges. Et puis 2024, de continuer le travail de recherche. Hein. La recherche ne renonce pas. Elle a obtenu effectivement un certain nombre de gains, hein, mais tout cela est très fragile. Et puis, c'est une recherche d'abord collective qui est tout à fait essentielle. Et j'ai parlé de 59, mais assez rapidement, la France s'implique au Rwanda, au point qu'elle va, comme on l'a reconnu dans ce rapport qui a été mentionné, avoir des responsabilités lourdes et accablantes dans l'engrenage qui conduit au génocide et aussi dans la phase paroxysmique, puisqu'elle ne l'arrête pas. Ces responsabilités, elles ont été tuées, elles ont été dissimulées, elles ont été refusées, au point, effectivement, comme ça a été rappelé, que l'ouvrage de Patrice Saint-Exupéry, complice de l'inavouable, c'est le passage inavouable, écrasait le narratif officiel français pendant 30 ans. Alors, cet exposé, bien sûr, c'est un exposé qu'on doit faire en tant qu'historien. Dès lors qu'on peut établir les faits, dès lors qu'on peut accéder aux sources, dès lors qu'on peut élaborer des analyses, c'est toujours possible, et l'historien, on ne dépend pas complètement quand même du contexte public et politique dans lequel il agit. Je veux dire, c'est toujours difficile de mener des recherches lorsque lorsque les pouvoirs publics sont extrêmement opposés à ces recherches. Hein. Bon, on peut évoquer quand même le travail d'Henri Rousseau sur le syndrome de Vichy. Ben, en fait, ça a été très difficilement accepté par l'université, qui elle-même était tributaire quand même des pouvoirs publics. Donc, c'est quand même très facile d'être un historien qui va à contre-courant, d'une parole publique, mais il doit le faire. Ceci dit, depuis le printemps 2021, le contexte qui était très hostile à l'analyse des responsabilités internationales et françaises, surtout françaises, dans le génocide des Tutsis, ce contexte a complètement changé. Auparavant, il y avait cette hostilité de la parole officielle, parole officielle de déni, avec un légalisme, c'est-à-dire puisque la France avait décidé une politique au Rwanda, en particulier décidée par le président de la République François Mitterrand, puisqu'ensuite, la mission d'information parlementaire en 1998 avait établi qu'il n'y avait aucune responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis, alors même que le contenu du rapport dit des choses qui rend impossible cette conclusion, hein, notamment, dans le cas de me citer, le fait qu'il y a deux occurrences intéressantes. La France a maintenu sa présence et développé sa coopération militaire sur fond de tensions ethniques, de massacres et de violences, comme Mitrédiazid, face à un contexte dont elle a sous-estimé la gravité. Et puis l'autre occurrence qui est encore plus accablante et qui empêche de dire qu'il n'y a pas de responsabilité, la diplomatie française n'a pas fait une analyse suffisante des arguments, des méthodes et de l'idéologie de ceux qui, dans le gouvernement rwandais, dans la CASU, c'est-à-dire le groupe extrémiste à parole génocide, refusaient a priori tout accord avec les et poussaient au massacre des Tutsis et des Hutus modérés. La menace d'un possible génocide a été sous-estimée. C'est-à-dire que, quand on est sous-estimée, c'est-à-dire que elle était compréhensible, elle était réelle. Alors que se multipliaient dans la plupart des partis politiques des branches extrémistes ouvertement racistes. Donc, c'est 1998, et à la suite de ce rapport, eh bien, la conclusion, c'est qu'il y a aucune responsabilité. Donc c'est ça, effectivement, le déni qui a écrasé, en particulier, le travail de recherche sur la France et le génocide des Tutsis. Alors, jusqu'en 2021, s'ajoutait aussi la très grande difficulté d'accès aux sources archivistiques, doublée aussi d'un commerce assez préoccupant de certains documents, en particulier le livre négationniste de Charles Dana, utilise des documents provenant de différentes sources, notamment des documents de la présence de François Mitterrand, et on comprend assez mal comment effectivement ces documents sont présents dans un livre de cette nature, comment est-ce qu'ils ont été récupérés. Donc il y a quand même des questions importantes qui se posent, et qui aujourd'hui donc ne sont plus d'actualité dans la mesure où, enfin, moins d'actualité dans la mesure où l'accès aux sources est plus facile d'abord à travers toutes les sources libérées par la commission que j'ai présidée et le rapport qui en sont suivis, et puis aussi parce que globalement les pouvoirs publics qui décident aussi des dérogations en matière archivistique, eux aussi étant assez légalistes, une nouvelle parole qui est celle qui a été développée par le président de la République le 27 mai 2021, donc 2 mois après la remise du rapport, le 27 mai 2021, le président de la République, même Macron, est à Kigali et fait un discours où il endosse les conclusions du rapport c'est-à-dire sur la responsabilité accablante de la France dans le génocide des Tutsis. Donc là, aujourd'hui, le légalisme, c'est important, le légalisme, il est en faveur du progrès de la vérité. Et ça change beaucoup, effectivement, dans la possibilité de continuer à travailler. Alors, ça ne veut pas dire, même si ce contexte, depuis mai 2021, eh bien, il a changé, ça ne veut pas dire aussi que la parole du déni ne persiste pas. On a vu un bon exemple avec un texte de Jean Bernamy publié dans Le Point en réponse à un dossier que Le Point avait réalisé sur la France et le génocide des Tutsis. Et enfin, ce qui est intéressant avec ce tournant de connaissance de 2021, c'est la libération de la parole. Jusque-là, les anciens acteurs ne parlaient pas, à l'exception du général Barrette, qui avait publié un livre en 2018. Mais jusque-là, il y avait une sorte de devoir de réserve qui s'imposait. La crainte aussi, soit de récupération d'un côté, soit de rétorsion de l'autre, pour les acteurs qui osaient rompre l'omerta. Et là, c'est terminé aussi. Donc tout ça permet la poursuite de la recherche. Après le colloque, après le rapport, deux sessions de colloque, donc un colloque international avec deux sessions au Rwanda et à Paris. Un livre collectif publié par le Genre Humain, et puis mon propre ouvrage, qui, je le précise, n'est pas un résumé du rapport. Il reprend les acquis du rapport, il développe de nouvelles recherches sur la base de nouveaux documents que j'ai effectivement identifiés, avec de nouvelles analyses, notamment en termes de raison d'État, d'illégalité, qui n'étaient pas présentes dans le rapport. Je pense que le changement est majeur, mais il est fragile. Il est fragile et il a débuté lorsque le président de la République, le 5 avril 2019, a souhaité créer une commission de chercheurs et historiens sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis. Revenons maintenant sur un point qui me paraît tout à fait essentiel, c'est il y a 30 ans, le 7 avril 1994, et même le 6 avril au soir, parce que dès l'attentat contre l'avion du président Aguilar et Mana, eh bien, les massacres commencent. Hein, et les Tutsis, et on a ce témoignage de Saint-José Kagabo, appelant son ami préfet Boutaré, qui lui dit « c'en est fini de nous ». C'est-à-dire que, et ça veut bien dire que justement, il y avait tout à fait, de manière très très claire, un processus génocidaire qui aboutit à ce que les victimes désignées, eh bien, aient conscience que cet attentat amène leur anéantissement définitif. Donc c'est extrêmement intéressant ce point de vue-là. Et donc, le 7 avril 1994, on peut dire que l'inconcevable est arrivé. Mais alors, attention, c'est pas l'inconcevable devant lequel on réagit avec le génocide perpétré contre les Arméniens. Parce que le génocide perpétré contre les Arméniens, jamais dans l'histoire on pouvait imaginer eh bien, qu'un État comme l'Empire Ottoman décide la mise à mort d'une partie de sa population. C'était inconcevable. Et en fait, le problème, si vous voulez, c'est que on n'a pas véritablement, même s'il y a eu des efforts, en particulier dans les années 20 et 30, de juristes, d'historiens, on n'a pas essayé de penser cet inconcevable. Ce qui fait que lorsque le nazisme se rue donc sur les juifs d'Europe dans un même processus de destruction, à nouveau, c'est l'incrédulité, c'est-à-dire que pour beaucoup, ce n'est pas possible. Donc on refuse les faits parce que, oui, l'humanité ne peut pas se détruire elle-même. Si, effectivement, il y avait eu une meilleure connaissance du génocide des Arméniens, on aurait mieux compris aussi que ce qui se passait contre les Juifs d'Europe était tout à fait concevable. D'accord ? Alors, pour le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, alors là, pour le coup, il y a quelque chose d'inconcevable. C'est pas le fait qu'il y a un État décide d'anéantir une partie de sa population, hein, parce que ça, depuis le génocide des Arméniens et le génocide des Juifs d'Europe, c'est concevable, d'accord. Non, ce qui est inconcevable, c'est que ce génocide ait pu se réaliser compte tenu de la connaissance qu'on avait des deux premiers génocides, par des trois avec les Malawi et les Nama, et compte tenu aussi de tous les moyens disponibles pour prévenir, arrêter et empêcher que le reste après le déni. C'est ça ce qui est inconcevable. Inconcevable avec tous les moyens qui existaient et qui ont à peine été envisagés pour combattre ce génocide. C'est là ce qui est inconcevable. Et c'est ce que je vais développer dans le temps qui me reste. Je vais être un peu plus rapide, mais il me semble vraiment intéressant de l'envisager. Donc, je vais voir une première partie rapide sur les moyens existants pour une situation caractéristique de génocide. Oui, effectivement, je vais y revenir, mais l'information, la formation publique, l'information étatique, l'information des associations, des avocats, tout montre que dès 1959, ou à partir de 1963-64, on est dans un processus génocidaire. Et donc, face à ce processus génocidaire, il y a des moyens d'agir, d'intervenir, qui ont été forgés après la Seconde Guerre mondiale pour justement faire en sorte qu'il n'y ait plus de génocide après l'extermination des Juifs d'Europe. Donc c'est la convention du 9 décembre 1948, hein, convention portée par le grand juriste Raphaël Lemkin, donc une convention à travers son article 2 qui permet de définir ce qu'est un génocide et d'agir avant même que l'ensemble du groupe soit détruit. Hein. L'article 2 dit bien « intention de détruire tout ou partie ». Donc dès lors qu'on est dans des massacres d'une partie du groupe, même si l'ensemble du groupe n'est pas exterminé, eh bien on est déjà dans une acte de génocide. Donc la convention, rappelons aussi le rôle du secrétaire général des Nations Unies, qui, qui ne préside pas le Conseil de sécurité, mais qui organise ses travaux. Rappelons aussi la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, qui joue un rôle très important, notamment d'information sur la situation des droits de l'homme. Donc j'ai parlé du Conseil de sécurité, qui a autorité pour émettre des résolutions, en particulier sur la base de la Convention du 9 décembre, avec des opérations de type contraignant, opérations de maintien de la paix, opérations militaires, et puis, possiblement, même s'il n'y a pas eu instauration d'une cour permanente de justice après 1948, alors même que Lemkin et les juristes voulaient cette cour permanente, qui n'aura lieu que beaucoup plus tard, après le génocide des Tutsis, avec la CPI, l'hypothèse, quand même, d'une cour internationale de justice dès lors que des actes de génocide sont constatés. Alors, c'est intéressant, c'est que, en fait, on voit que la probabilité pour la communauté internationale qu'il y ait des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide, cette probabilité semble absolument improbable. On le voit notamment face à l'ex-Yougoslavie, où il faut effectivement toute une volonté, un engagement, notamment d'intellectuel, pour qu'on comprenne que l'agresseur serbe mène des actions qui peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité. Et en plus, en ex-Yougoslavie, donc en fait, 2-3 ans avant donc les événements du Rwanda, l'identification du crime de génocide qui va finalement être reconnu pour Srebrenica, ou l'identification du crime contre l'humanité est un peu plus complexe. Tandis qu'au Rwanda, eh bien, les caractères du génocide sont constitués et sont constatés en temps réel. Alors, peut-être pas en 1959, mais on voit bien qu'en 1959, il y a une organisation des premiers massacres donc contre les minorités tutsi, qui est racialisée de manière, on ne va pas revenir là-dessus, mais de manière idéologique, hein, puisqu'il n'y a pas de race au Rwanda, il n'y a pas d'ethnie, hein, et que c'est une construction du colonisateur belge qui est repris donc à la fin de la colonisation, et qui sert justement au massacre des Tutsis. Mais dès 1964, en relation au grand massacre au Rwanda de Tutsis, de 1963, le prix Nobel de la paix, qui est un philosophe, Bertrand Russell, alerte sur les actes de génocide. Donc c'est en 64. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous voyez, il y a déjà l'identification possible d'un génocide contre les Tutsis au Rwanda. Et puis, ça va se multiplier, je n'ai pas le temps effectivement de détailler, mais au sein, y compris parmi les agents civils et militaires français, ou bien dans le domaine public, sur la base d'expertise, il y a notamment l'alerte extrêmement solennelle et très fondée de Jean Carbonard, qui était membre d'une équipe internationale de recherche au Rwanda en janvier 1993, et tout le monde peut voir ce qu'il a déclaré sur Antenne 2 le 28 janvier 1993. Et puis, en 1994, il y a de multiples publications, notamment l'article de Jean-Pierre Chrétien, qui est repris dans cet ouvrage, d'avril 1994, et puis toute une série, notamment, je renvoie en particulier aux articles de Patrice Saint-Exupéry, mais Maria Magliartis, que vous entendrez, était aussi présente pour la Croix au Rwanda, Jean-François Dupaquet, qui lui aussi alertait depuis longtemps. Nul ne peut ignorer, si vous voulez, la parole publique. Donc il faut rappeler aussi la presse belge, la déclaration d'Alain Juppé du 16 mai qui reconnaît le génocide. Et même après, face au déni, c'est-à-dire le déni qui va s'imposer en France, double déni, c'est-à-dire déni des responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis, mais finalement déni aussi du génocide lui-même. D'abord parce qu'il est au fond assez facile de faire disparaître les responsabilités de la France si on fait disparaître le fait même, hein, c'est logique, et puis déni à travers les accusations répétées de génocide que le Front Patriotique Rwandais, ce qui arrête le génocide hein, militairement, eh bien, aurait fait contre les Hutus. Donc, et face à cela, eh bien, vous avez le Tribunal pénal international qui est finalement constitué le 8 novembre 1994 hein, et qui, à travers deux constats judiciaires en particulier, 2006 et 2009, dit bien que le génocide est de notoriété publique et qu'on ne peut pas le remettre en question. Donc, vous voyez, il y a toute une série d'éléments extrêmement probants qui, en fait, sont écartés qui sont écartés parce que les moyens d'action contre le génocide ne sont pas utilisés. Alors, ces moyens puissants internationaux, donc, comme je dis, ne sont pas utilisés face au génocide des Tutsis. Alors pourquoi ? Je vais être rapide, mais je pense que c'est intéressant de réfléchir sur le fait que d'abord, la Convention, en particulier du 9 décembre 1948, elle avait d'une certaine manière pour fonction de ne jamais être employée parce qu'on estimait que le fait de caractériser, de qualifier et donc d'incriminer potentiellement des auteurs de crimes de génocide suffisait à dissuader pour l'éternité des auteurs de génocide. Donc il y avait au fond cette dimension-là d'une sorte de bombe nucléaire, vous voyez, qui empêcherait toute répétition du crime. Par ailleurs, c'est que alors même que les auteurs de cette convention avaient prévu une Cour pénale internationale, avaient prévu des moyens d'identification des futurs génocides à travers, en particulier, voilà, que l'ONU se dote d'organes d'information, même de satellites pour observer effectivement les traces des massacres, eh bien, on ne fait rien. C'est le rapport Whitaker de 1985 qui dit bien qu'on abandonne finalement les développements permettant à ce que la Convention puisse agir. C'est aussi assez complexe à mettre en œuvre parce que mettre en œuvre la Convention sur les génocides implique de passer par le Conseil de sécurité, dont effectivement la formation avec les membres permanents, le droit de veto des membres permanents, le rôle des membres temporaires, tout ça fait que ce n'est pas effectivement très facile. Et puis, en fait, la Convention, on voit que elle n'est même pas utilisée pour l'ex-Yougoslavie, puisqu'on va se saisir d'abord des crimes contre l'humanité qui ne relèvent pas de la Convention de 1948, hein, mais d'autres, notamment du statut de Nuremberg. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'hypothèse où la Convention serait utilisée notamment pour des faits commis, en Occident, en particulier en Europe, pour l'Afrique, il paraît absolument inconcevable qu'on puisse appliquer cette convention. Parce que, d'abord, l'Afrique, ce sont des populations donc, qui ont été longtemps colonisées, qui sont des colonies, des populations de droit inférieur, à qui, finalement, le droit des gens n'est pas reconnu, puisque, en tant que population colonisée, c'est notamment le code de l'indigénat français, donc ça veut dire que ces populations ne sont pas appelées à être protégées comme les autres. Deuxième point, les cultures, les sociétés, les États africains sont pensés comme sous-développés au point d'être incapables d'engendrer un ciblage racial, idéologie génocidaire, état criminel, tout ce qui... Vous voyez, on voit bien l'Empire ottoman ou l'Allemagne nazie étaient des États donc modernes qui ont pu développer un projet d'anéantissement et on considère que l'Afrique effectivement est si sous-développée qu'elle n'est pas capable de prévoir, de penser un tel projet. Parce que aussi l'Afrique est réputée comme une civilisation de tribus Donc il se fait la guerre. C'est exactement ce que dit François Mitterrand le 8 novembre 1994, le jour même de la création du tribunal pénal international au Rwanda, en disant que la France n'a au fond aucune responsabilité si des chefs de tribu décident de régler leur compte à toute machette. Donc on voit bien effectivement que l'Afrique ne peut pas accepter un génocide. Et que donc cette mentalité-là, elle imprègne toute la diplomatie mondiale, parce que la diplomatie mondiale, elle est d'abord faite par les grandes puissances occidentales, et notamment par la France, qui, au Conseil de sécurité, est extrêmement, extrêmement présente. Alors, je vais accélérer, j'ai encore pour 4 minutes, hein, je tiendrai mon temps, car effectivement, la France, en particulier à partir de 1990, octobre 90, mais même avant, est quand même le pays le plus impliqué militairement, financièrement, politiquement, au Rwanda. Du reste, elle va, les Belges vont quitter militairement le Rwanda à partir de novembre 1990, c'est-à-dire un mois après l'arrivée d'unités de combat françaises, donc qui soutiennent le régime préparant le génocide. Ce qui s'est passé, donc ce que l'on savait, tout, beaucoup savaient, mais il était compliqué en fait de le démontrer avec un maximum de sources, et il était compliqué aussi de faire admettre à la puissance publique, en particulier au président de la République, parce qu'on a vu quand même que ni Jacques Chirac, qui pourtant a agi de manière très positive pour la Bosnie, ni François Hollande, Nicolas Sarkozy en partie, puisqu'il fait ce voyage à Kigali en 2010, mais en fait on voit bien que personne au sein des pouvoirs publics ne bouge sur le sujet de Rwanda. Ça veut dire qu'il y a donc une grande difficulté à faire admettre ce que les experts, les journalistes, les historiens savaient, et qui finalement donc va être reconnu à travers notre rapport, qui s'attache aux échelons politiques de la décision, de la responsabilité, et non pas, à ce que l'on attendait pour beaucoup, c'est-à-dire les responsabilités à la fois techniques et politiques des armées, ce qui n'a pas été le cas. Les armées ont obéi aux ordres, ont même manifesté une grande gêne pour certains pour les ordres donc irréguliers, hein, et même illégaux qu'on leur imposait, et désormais c'est l'autorité politique qui est questionnée dans ses responsabilités lourdes et accablantes. L'autorité politique, c'est l'autorité donc de François Mitterrand en particulier. Et donc la France disposait, et voilà, je vais terminer là-dessus parce que ça me paraît extrêmement important, la France disposait elle-même de moyens considérables pour empêcher le génocide dans la phase de préparation. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Pierre-Antoine Veil lorsqu'il dit qu'il y a intention, passage à l'acte et déni. Oui, bien sûr, déni négationniste, oui. Mais le passage à l'acte, en fait, il se réalise dès l'intention. Il faut bien voir que, notamment, quand la France est présente au Rwanda massivement entre 1990 et 1993, vous avez des massacres systématiques qui sont des passages à l'acte. Parce que vise une partie du groupe ciblé. Oui. Donc c'est pas le passage à l'acte, il se réalise donc de manière, spéciale, jusqu'au moment où, plutôt que de parler de passage à l'acte, je préfère l'expression de phase paroxysmique ou paroxystique, si vous voulez, c'est-à-dire le moment où là, l'extermination est totale. On passe du en partie au tout, d'accord ? Mais avant la phase paroxysmique, on est quand même dans le génocide. Et donc, on peut intervenir, mais c'est très important. Le crime de génocide se réalise avant même la phase paroxysmique. C'est absolument fondamental. Et donc, la France a des moyens généraux. Donc là, c'est une sorte de conclusion que je vais donner. En rappelant que la France, donc, en tant que membre permanent, au fond, est un acteur de l'application, de la mise en œuvre de la Convention sur le génocide. Hein. La France, en 1994, va transformer son code pénal, puisque le crime de génocide entre dans la catégorie des crimes contre l'humanité. Mais pour préparer le code pénal de 1994, on y travaille plusieurs années auparavant. Donc, il y a une réflexion française sur les crimes de génocide Et il semble que personne ne fasse le lien entre cette réflexion sur le crime de génocide et ce qui se passe au Rwanda à cette époque. Alors, et la France a des moyens donc considérables au Rwanda pour donc faire cesser la phase préparatoire et intervenir lors de la phase paroxysmique qui commence le 6 avril, et puis mettre fin ou ne pas aller dans le déni puisque les éléments sont présents. Donc des moyens politiques, le lien entre François Mitterrand en particulier et le président Bainimana, des moyens militaires très puissants, on ne va pas les développer, mais ces moyens militaires pouvaient tout à fait être utilisés pour arrêter le processus génocidaire, les moyens financiers qui ont surtout servi donc à l'armement des forces armées rwandaises et indirectement, puisque l'armée rwandaise est une armée pléthorique aux milices, des moyens juridiques aussi, notamment des accords qui permettaient à la France de peser sur le gouvernement. Et donc, la France est très, très informée grâce à ses agents. Et finalement, ce qui se passe, et ce qu'on a pu constater, c'est ces responsabilités lourdes et accablantes dans l'engrenage et dans le génocide lui-même, car en 1994, il y a deux opérations militaires qui n'ont pas été dirigées vers l'arrêt du génocide, alors que l'information sur le génocide existe et que, avec l'opération turquoise du 22 juin, le cadre juridique existe doublement, puisque la France a reconnu par Alain Juppé le génocide des Tutsis le 18 mai et que les Nations Unies, le 8 juin, qualifient d'acte de génocide ce qui se passe au Rwanda. Donc, pour conclure, je n'ai pas le temps d'expliquer les motivations de cette politique, ça sera pour une prochaine fois. En revanche, puisque vous allez recevoir Bernard Kouchner, fait partie de ce qu'on appelait les lanceurs d'alerte, même si, de mon point de vue, il n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'il aurait pu réaliser. Notamment parce que, en tant que politique, il est toujours compliqué, je pense, de briser au fond les liens qui vous unissent au monde politique. Mais il a fait, je pense, ce qu'il a pu ou ce qu'il a voulu dans le cadre qui était le sien. Et donc, ça serait intéressant de l'entendre, voir effectivement à différents moments. Il est notamment à Kigali en mai. Tenter de sauver des orphelins visés par les tueurs tutsis. Il a une activité assez forte, on sait aussi son rôle pour la Bosnie, donc c'est intéressant de voir effectivement s'il n'a pas finalement eu une double action, même si celle sur le Rwanda a été moins réussie, je dirais, que celle pour la Bosnie, bien que, encore une fois, le voyage de François Mitterrand à Sarajevo est finalement une sorte de voile publique jetée sur la politique de la France. Je terminerai simplement par une citation de Bernard Kouchner le 30 mars 2021, c'est-à-dire quelques jours après la sortie de notre rapport, et voilà ce qu'il déclare à Radio France. Il donne un entretien, il dit ceci, et donc je terminerai sur le constat quand même de la personnalité que vous allez recevoir tout à l'heure. Pour expliquer cette succession, d'erreurs volontaires acceptées, il y a eu la loi du silence. Ce silence était-il obligé? Est-ce que c'était François Mitterrand et un petit groupe de gens qui dirigeaient ces opérations, en particulier l'opération Turquoise? C'était l'Élysée quand même, le président de la République. J'avais pour lui respect et affection. Pouvait-il se tromper? Bien sûr, j'étais sur le terrain, et comme on l'a dit trop souvent, c'est en rapport à une critique qu'on vient faire, notamment lorsqu'il était en sommeil. Et c'était la cohabitation, ne l'oubliez pas. Donc là, on voit, il a un peu de mal au début à fixer ce qu'il veut déclarer aux auditeurs de Radio France. Et maintenant, il va dire quelque chose de beaucoup plus net. Le président reprenait donc la main sur une opération, l'opération turquoise, dont il excluait pratiquement les autres, notamment Édouard Balladur, le Premier ministre. On a vu comment est-ce que tout est repris effectivement dans les mains de l'Élysée sous la base notamment d'une compromission de l'institution. il n'y avait pas de rapport écrit. Vous savez, tout cela, c'était des ordres oraux. C'est fantastique de manipuler comme ça les choses. Mais en fait, qu'est-ce que c'était ce soutien? C'était avec des chefs génocides.
Leçon inaugurale vraiment remarquable. Merci, c'est très très c'est tout à fait appréciable que tu aies accepté. Évidemment, on te remercie pour cette leçon. Tu es libre comme l'air, hein, quand tu dois, je sais que tu dois vaquer à d'autres occupations. Vraiment, tu pars quand tu veux. Merci encore. Je vous invite tous à lire, parce qu'il ne l'a pas rappelé, mais son ouvrage qui est sorti, qui est paru il y a quelques semaines, hein, qui est très très récent, et qui est en grande partie tiré du rapport que tu as établi à la tête de cette mission présidentielle. Quelques mots de poésie. Alors elle est très... non mais elle est vachement timide, mais c'est pas grave, t'es timide, tu vas quand même venir. Non mais c'est... Parce que vous... Pardon ? Non, je ne vais pas rester en cours, non, tu vas venir. Alors, Jacqueline, avant d'entamer la première table ronde, qui va se faire sous forme d'interview avec Iris et Marcel Bamboula. Donc Jacqueline, non, c'est vachement bien. Non, tu peux voir, c'est très... Non, quelques secondes.